Bonjour et bienvenue dans le 12e Dragon Ball Cast, centré sur l'arc, mini-arc devrais-je dire, du tournoi de l'autre monde, qui se déroule tout de suite après l'arc Cell. Je suis ce soir en compagnie de Goten-kun, bonjour.
Salut, salut à tous.
Je suis en compagnie également de l'inénarrable, de l'inarrêtable Charnalk, bonjour.
Salut.
Et nous, ça va marquer aussi le retour d'un grand qui s'appelle Gokujo.
Salut à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oh,
Bah
ça
ouais,
va
très
très
bien, et
bien.
toi?
Super.
Très très bien. Ça faisait longtemps. Alors, par contre, on va peut-être faire un petit point news avant sur ce dont toute la twittosphère, même tout Internet parle en ce moment, c'est-à-dire le prochain film Dragon Ball Super, car on sait maintenant le titre, le méchant, enfin on sait presque tout, quoi.
Brocoli. Ce que je pense de ce nouveau Broly. Bon, les bugs micro, j'espère que ça ira mieux. Alors, je disais, déçu au premier abord du manque d'innovation, déçu de ce manque d'innovation. Mais comme je disais tout à l'heure, oui, parce qu'on est des bugs micro, si il sort en avant-première au Grand Rex, je serai le premier à prendre les tickets. Ensuite, ça c'est surtout pour sa forme légendaire, je trouve. Ils ont vraiment tout pompé, quoi. Mis à part peut-être la masse musculaire, parce que Yamamulo l'avait fait avec des bras énormes, même limite plus gros que son corps, je me rappelle à l'époque.
Ouais, très grand surtout.
D'ailleurs, ça c'est corrigé, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour sa forme normale, là c'est le bon point pour ma part. Alors, on garde le regard un peu perdu. À l'ancienne, mais il y a une certaine innovation. Et ben, j'y pense maintenant, ça me vient en tête. Tout à l'heure, on me demandait sur Facebook pourquoi il est beaucoup plus bronzé en forme normale et pas en forme Super Saiyan légendaire. C'est tout simplement, je pense, et c'est très bien fait dans DBZ souvent, quand il se transforme avec l'aura, du coup, la peau est beaucoup plus claire,
Oui,
forcément.
ça le fait pour Goku aussi.
Voilà. Et du coup, l'explication est toute simple.
Et même pour le premier Broly, c'était le cas déjà.
Oui, totalement.
Le premier Broly avait une peau assez claire, tout du moins dans le premier film. C'est dans le film 10 où justement il a une peau assez foncée.
Ouais, les palettes de
Non,
couleurs, parfois.
il est quand même assez mat, je trouve.
Ouais, dans le film 8, il est assez mat, je trouve, hein. Au début, quand on le voit normal.
Ouais, bah déjà plus que
Je suis
Goku et Vegeta,
d'accord.
il me semble.
Oui,
C'est vrai,
oui.
c'est vrai. Bah, comme Paragus qui est encore un cran au-dessus.
Voilà.
Ouais.
On sait, il tient de qui, au moins. Voilà. Bon, non, sinon, je disais que Naohiro Shintani, qui remplace Yamamulo, fait un bon travail, je pense. Donc, j'attends pas forcément le film au niveau de l'histoire, même si j'ai envie d'être surpris, agréablement surpris, pourquoi pas. Mais moi, j'ai surtout envie de voir les éléments techniques qui s'annoncent prometteurs. On nous vend du rêve un petit peu avec tout le monde qui va travailler dessus. Et eux, ils ont envie de faire le meilleur film jamais fait. Alors,
C'est ambitieux.
voilà, c'est ambitieux. Mais je pense que quand ils mettent la barre haute comme ça, en général, et surtout pour des films, ils déçoivent rarement.
C'est vrai qu'ils en sont capables.
Ils en sont capables. On l'a vu avec DBS à la fin, ils ont réussi à s'appliquer sur quelques épisodes. C'était top, hein. Même moi qui n'ai pas le plus grand fan de DBS, il y a des épisodes que j'ai vraiment aimé sur la fin, quoi.
Ah, le dernier épisode restera dans les annales.
Ah ouais, j'aime beaucoup le dernier épisode. Voilà, pour ma part.
Bah, moi, me concernant sur cette annonce, bah, évidemment, au début, j'étais déçu parce que c'est très révélateur. C'est-à-dire que tous les débats qu'on a entendus jadis, Broly est-il canon, Broly pas canon,
Alors
bah, ce
ça,
film
oui.
s'adresse pour ces personnes-là, finalement. C'est eux qui ont gagné. C'est tous ces vidéocasts, youtubeurs et compagnie. Tous ceux qui ne voyaient Dragon Ball que par Broly depuis ces dernières années, bah, ils ont gagné aujourd'hui. Ils ont gagné, ils ont le film qu'ils voulaient, parce que maintenant Broly sera dans la continuité du manga, puisque ce film fait suite à Dragon Ball Super, et il y a de grandes chances que ça arrive également en manga, mais via Toyotaro en fait.
Ouais.
Donc là-dessus
Bah,
j'étais un peu
totalement.
déçu. Bon, après Broly c'est pas un personnage que je déteste, mais je déteste en fait certains fans qui ne regardent que Broly et pas le reste du manga. Et c'est ça ce qui me pose problème. Sinon, bah, ça peut être très intéressant. En fait, plus que Broly, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire de Paragus. C'est ma plus grande interrogation. Sur le reste, bah Broly porte les vêtements de l'armée de Freezer, donc il va forcément se faire recruter d'une manière ou d'une autre. Reste à savoir comment, bah on le découvrira ensemble.
Tu fais bien de
Mais...
revenir là-dessus, j'ai oublié de le rementionner, mais c'est vrai que le néophyte, je veux dire, il peut que être perdu avec ce film. Il peut que être perdu.
Ouais.
Déjà, entre ceux qui savent pas trop Dragon Ball Z, ils pensent c'est deux mangas différents qui se suivent ou je sais pas. Là, imaginez, c'est un autre film, une autre timeline, tout ça, que je sais pas comment ils vont faire. Hein. Je sais pas du tout. Donc j'espère que ça va être clair, précis, mais. Franchement,
Ah, ça va être une
c'est ça qui me
version
fait peur, moi,
2018 de
personnellement.
Broly.
Pardon?
Ça va être une version 2018 de Broly, une version DBS de Broly. De toute façon,
Une
ils n'avaient
version
pas le
très gamin.
choix. Pour le remettre à niveau, pour le faire confronter à Super Saiyan Blue, ils sont obligés d'en refaire un nouveau.
Et
Mais
surtout,
va expliquer ça.
c'est une version Toriyama, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ouais, après c'est quand même un manque de culture de la part de certains fans, parce que... Quand tu regardes les films, tu comprends que c'est pas dans la trame.
Ah bah oui,
Tu... Ça dépend
ça
certains.
peut pas.
Même quand j'étais gamin, j'avais t'ai dit c'est une histoire parallèle et voilà. Je m'étais jamais posé la question de
Il y
d'essayer
en
de
a
l'intégrer
beaucoup,
entre
ça a
deux
toujours
films.
été un jeu de dire, alors ce film, il devrait se passer entre l'épisode 185,
Oui, voilà.
187.
Essaye de le
Il y a tout.
resituer, mais tu sais que c'est pas dedans, quoi. Tu fais pas des nœuds à la tête.
C'est malheureusement plus compliqué qu'on ne le croit. Parce que dans le Daizenshu, le 6, le dictionnaire, le Digiten, il y a des éléments des films qui font partie de la chronologie de la Shueisha. Mais pour la version animée, je parle. Et du coup,
Oui, pour
c'est assez
l'animé.
compliqué en fait.
Mais l'animé, c'est encore autre chose, vu que c'est une
Bien
adaptation,
sûr.
des remplissages et des modifications. Donc,
Exactement.
je trouve que ça pose pas problème de ce côté-là, quoi.
Non, moi non plus.
Mais je pense quand même que les fans, enfin les fans, mais ceux qui, le grand public qui ne s'intéresse pas comme nous à Dragon Ball, va être un petit peu, ils vont être un petit peu perdus, je pense quand même, parce
Oui,
qu'ils
bah,
vont dire,
ouais,
attends,
c'est
Broly,
ça.
je l'ai déjà vu, pourquoi ils le reconnaissent pas?
Voilà.
Ils vont pas comprendre, je pense.
Totalement.
Parce qu'il y en a beaucoup qui suivent ça comme ça, sans vraiment être fans, ils vont regarder, ils vont bien aimer, mais ils vont pas chercher plus loin. À mon avis, ils vont être complètement perdus.
Donc à voir ouais, comment ça va être traité.
C'est ça. Assez déçu du nom de ce film, Broly. J'aurais aimé un autre Saiyan ou Yamoshi, par exemple. On parlait tous de Yamoshi, pourquoi pas.
Après,
Là,
il y a une trame qui est censée se passer dans le présent et une trame dans le passé, donc c'est pas impossible qu'on le voie quand même.
Moi, je
ouais, c'est
pense que c'est
vrai,
le
le
en tout cas, ce
projet
sera pas le.
Yamauchi, justement, a été transformé en projet Broly entre-temps.
C'est possible, c'est
Mais
possible.
Yamoshi, excusez-moi, j'ai pas trop suivi non plus tout ce qui est DBS. Donc Yamoshi, c'est le premier Super Saiyan, c'est ça?
Oui, c'est
D'accord,
censé
ouais. C'est ça.
être lui l'origine de la légende, en fait.
D'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Bah ouais. Bah du coup, moi, Broly, quand il y a l'affiche qui est sortie, j'y croyais pas trop. Je pensais que c'était un fan art au début.
Oui,
Parce
on
que
a
je la trouvais
aussi
vraiment pas
un.
terrible, l'affiche.
Ouais,
Je
pareil.
trouvais vraiment que c'était pas terrible.
Il fait
Et
très Yamcha.
je trouvais que c'était un petit peu gros Broly, quoi. Je me suis dit,
Ouais.
attends, ils vont pas nous ressortir Broly. Et finalement, bon, peut-être
Même
2 heures
si.
après, ils ont officialisé la chose. Et
Ouais.
honnêtement, pour ma part, je crois que je suis un petit peu. Enfin, je sais pas. Ça me laisse un goût un petit peu bizarre dans. Je sais pas. C'est. Après un retour de Freezer, moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Je sais que le film a beaucoup. Enfin, a eu beaucoup de succès, mais honnêtement, je trouve que c'est la pire idée qui soit. Et après nous avoir remis Trunks du futur, que j'adore aussi, hein, mais Freezer, que j'adore aussi, je suis un gros fan de Freezer, mais je trouvais que c'était vraiment de trop, c'était too much. Enfin, après nous remettre Trunks, je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Et maintenant, Broly, je trouve que maintenant c'est devenu vraiment. On va mettre ce que les fans aiment, et le reste, bah, tant que ça marche, ça fera des sous, quoi. Et c'est bête à dire, mais j'ai vraiment l'impression que la licence part là-dedans.
Un peu du
Et
recyclage.
mais c'est ça, c'est que du recyclage. Tiens, on va mettre ça. Tiens, les fans adorent Badak. Allez, on va leur mettre Badak dans le prochain. Ça va faire kiffer. Franchement, je suis sûr que dans les prochains trucs, il va y avoir un retour de Badak, de Tapion ou je sais pas de qui.
Oui, il y a toujours
Mais j'ai
Tapion.
vraiment cette impression que c'est vraiment devenu une caricature de licence. 10, c'est dommage parce que il y a encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire sur Dragon Ball. Il y a des trucs super intéressants à développer, et même dans DBS, je suis vraiment pas fan du tout de DBS, vraiment vraiment pas. Mais il y a des idées vraiment intéressantes, et c'est pas développé plus que ça. Et je trouve ça dommage.
Et de quoi, tout coup, toi, Gokujo, t'en penses quoi? Parce que là, on t'a un peu coupé, excuse-nous.
Bah, non, mais après, je trouve ça marrant qu'on ait une redondance avec Broly, parce que ça fait écho justement. Il y a pour les 50 ans du Jump, il y a quelques jours, il y a une golden interview entre Toriyama justement et Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk entre autres. Et à la fin de l'interview, Toriyama qui dit, bon, en gros, hein, il dit que quand il regarde les auteurs d'une Jump aujourd'hui, donc du Weekly Shonen Jump, ils trouvent qu'ils sont trop inspirés des choses qui les ont fait rêver dans leur jeunesse, qu'il y a pas d'innovation, qu'ils essayent de copier, quoi. Et il aimerait bien voir quelqu'un et penser de cet auteur, waouh, ce mec est vraiment fou, j'adore ça, il doit être vraiment fou. Voilà, c'est ce qu'il a dit, quoi. Et là, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il pense.
Ben, ouais.
C'est assez bizarre, quoi.
Il a beaucoup évolué aussi, Toriyama.
Ouais, après, je pense que le mec il est fatigué, quoi. On lui dit, écoute, ça se trouve, il y avait une histoire avec Yamoshi, on lui a dit Broly, lui, il a dit Broly qui. Et déjà, il l'a déjà fait dans une interview, hein. Broly qui. Il savait plus du tout c'était qui.
C'était pas plutôt Tao Pai Pai.
Et Tao Pai Pai avec Kuda.
Ouais.
Après, bon, ça restait juste un chara-design à l'époque pour lui. Donc,
oui, lui, il a fait une petite esprit. Enfin, sa tête.
Il se rappelait pas l'avoir fait, quoi.
C'est clair, il peut pas se rappeler de tout ça. Surtout qu'il a été très peu investi dans les films à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui.
C'est pas comme aujourd'hui.
Non, c'est pas comme aujourd'hui. Mais...
Cela dit, pour moi, on disait tout à l'heure que Dragon Ball Super, bon, bah voilà, ça répondait aux demandes des fans. Je trouve juste qu'au contraire, Battle of Gold, c'est le film le plus Toriyamesque de tous.
Ouais, mais vraiment, ça, de tous. Ouais. Bah, totalement.
Et là, oui.
Ah, il y a son essence, son humour. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas si bonne réputation. Parce que justement, il y a des combats, mais pas que. Il y a autre chose. C'est ouais. Pour moi le film le plus Toriyama, le plus Dr. Slum.
Ouais, non, totalement. Mais
j'ai trouvé meilleur en réalisation par rapport à F quand même.
Même comment? Si
j'ai bien aimé F, mais Battle of Gods pour moi est mieux réalisé déjà.
Ah, ça je saurais pas dire.
Moi je trouve que F est mieux réalisé, mais Battle of Gods je préfère. Tu vois, les personnages de Beelus et Whis, c'est du génie, je trouve. Les deux là,
je suis totalement
c'est...
d'accord.
C'est génial.
Tout le début du film de Battle of God est génial grâce à Whis et Beerus.
Voilà, justement, c'est cette mise en scène-là dont je parle, par exemple.
D'accord.
Parce que dans F,
à ce niveau-là,
il y a le retour, et puis après, c'est que du combat quasiment. Donc, ça fait plaisir à d'autres fans, mais c'est pas pareil.
Ouais, bah, très bien.
Je pense qu'on peut finir le point news du coup. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, le tournoi de l'autre monde. Donc, c'est vraiment un tout petit arc qui ne dure que 5 épisodes. Il se passe juste après le tournoi contre Cell. Goku est donc mort en se sacrifiant une énième fois pour sauver la Terre. Et se retrouve en compagnie de Kaio. Donc, qui veut commencer ?
Bah déjà, cette partie elle est vachement intéressante et peut-être même très étrange dans son contexte, puisque on revenait vers de l'humour, mais très Dragon Ball, premier du manga. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Ouais, c'est vrai.
Totalement
mais
d'accord,
les
ouais.
combats étaient déjà très drôles sur cette partie. On oubliait vraiment le stress du Cell Game et c'était très appréciable.
C'est ça, on revient à des combats un peu plus ridicules ou légers, pas très impressionnants forcément.
Ouais.
C'est vrai.
Mais j'avais un... Je sais pas si ça vous le faisait à l'époque, mais cette partie-là, pourtant qui ne dure que 5 épisodes, je l'ai trouvé interminable quand même. Parce que en fait, on avait quand même des petits spoilers par rapport au magazine qui sortait, le Dorothée Magazine, tout ça. Et du coup, on savait ce qui allait se passer avec le nouveau tournoi, l'ellipse de quelques années, et avec Goten, Trunks, tout ça. On savait que ça allait arriver et... Honnêtement, j'aimais bien, c'était cool comme épisode, comme petite saga, mais j'avais envie que ça se finisse au plus vite. J'avais envie de voir la suite et
ah ouais
je savais que c'était vraiment, c'était du filler quoi. Je savais que c'était rajouté et j'attendais qu'une chose. Vraiment, je l'ai trouvé interminable cette saga, alors que 5 épisodes quoi, ça va vite. Mais c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Je l'ai trouvé vraiment interminable.
Moi, c'était le contraire. J'avais pas eu de spoiler. Enfin, je savais pas ce qui se passait.
Ah ouais.
Donc du coup, je savais pas forcément que c'était un filler à l'époque. Par contre, dans mes souvenirs, avant que je la revoie plus tard, dans mes souvenirs, elle durait plus longtemps, par contre.
Ouais.
Donc effectivement, il y a peut-être cet effet un peu de longueur. D'ailleurs, quand je les ai revus là ce week-end, ça durait que 5 épisodes, mais c'est vrai que j'ai trouvé des moments longs des fois.
Ouais, c'est pour ça, quand j'ai revu, j'ai vu qu'en fait ça faisait que 5 épisodes, j'étais vachement étonné. C'est ça, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était super long. Et même que, bon, je savais pas que c'était du filler vraiment, parce qu'à l'époque on savait pas trop les différences manga-animé, on savait pas trop du tout quoi. Mais vraiment, je trouvais que c'était interminable. Alors ouais. Que 5 épisodes quoi, c'est vraiment bizarre.
Ouais, c'est rien du tout.
Ouais.
Paradoxe.
Mais bon, ça a duré 5 semaines quand même, hein, parce qu'on avait un épisode par semaine, donc c'était un peu galère.
Et toi, beaucoup de jeux ?
Personnellement, non, j'ai pas trouvé ça long, parce que je trouve, bon, même si on a un choc, un traumatisme, hein, tu termines le Cell Game et t'arrives là-dedans, ça fait tout drôle, hein. Tu passes ouais. Du chaud au froid.
Ouais, le contraste.
Non, parce que je trouve qu'ils ont fait ça bien, parce que... On a élargi un petit peu le monde. Bon, après, c'est DHS, hein, mais on a appris qu'au-dessus des caillots, il y a quelque chose d'autre. On a appris un nouveau monde, en quelque sorte. On a revu d'autres personnages. Hein, on en parlera après. Et donc, le temps passe assez vite. Hein, tu revois Gozu, Mezo, tu sais, les deux...
Ah oui, on
dire, les deux démons, là, quand Goku tombe
oui,
du
oui, oui.
Chemin.
Ça, c'est bien la continuité que met la Toei dans ses
personnages. On voit plein de trucs comme ça, puis après, ça te laisse le temps de souffler, parce que le Cell Game, c'était au niveau de l'attention, voilà, on sait tous.
C'est ça, je trouve que c'est un rafraîchissement.
C'était quoi
ça rafraîchit, puis ça fait rappeler un peu, comment ça s'appelle, Tsurusenin et Kame-sennin. Vous vous rappelez le tournoi avec les deux maîtres d'arts martiaux qui étaient rivaux?
Tu parles entre
chacun des deux maîtres voulait justement que son disciple aille en finale et remporte le tournoi.
On remarque que c'est un thème récurrent de toute façon entre
tous. Ouais. Oui, on a la même chose avec Champa aujourd'hui.
Et puis voilà, Beerus Champa aujourd'hui. Donc là, c'était plutôt Kaio, Ouest et Nord. On retrouve cet humour de Kaio qui sont.
Ouais, mais justement, c'était marrant de voir les Kaio comme ça.
Ouais, surtout les voir moins sérieux, moins.
Moins.
Plus fier. Enfin, plus orgueilleux plutôt.
Non, mais les voir parier sur un tournoi, les voir.
Oui, le pari aussi, oui.
Exact.
Des gamins en quelque sorte.
Encore un pari avec une planète d'ailleurs.
Oui.
Non, mais c'était très amusant en tout cas ce passage-là. Et puis surtout, ce qui a marqué, le passage qui a le plus marqué avant le Kaioken Super Saiyan. C'est incontestablement Paekwan se frottant à Cell, Freezer et Cold. C'est le scénario de Hayamatsui. Et évidemment, voir Paekwan, le flamboyant Paekwan, comme je le disais sur Twitter il y a quelques jours, c'était assez impressionnant, même ça. Si ça pose quelques problèmes de cohérence. Mais la scène est tellement classe qu'on lui pardonne.
C'était intelligent au niveau du scénario. Ça permettait de montrer son niveau de puissance. Sans faire tout de suite un affrontement direct avec Goku, on voit qu'il est capable de mater quand même des mecs assez balèzes quoi.
C'est dommage qu'on n'ait pas revu la technique de Paekwan enflammé, parce que du coup ça faisait bien écho au Kaioken, aux techniques basées sur la chaleur, et ça je trouvais ça bien trouvé.
Ouais, je trouve que c'était intelligent de le faire affronter, enfin affronter, c'est même plus un affrontement, c'est de corriger Frieza, son père et Cell. Parce que ça montre tout de suite le niveau de Paekwan, et ça montre la hype de Goku, du coup, et sans qu'ils aient besoin de s'affronter directement tout de suite. Quoi. Et d'ailleurs, dans tout l'arc en lui-même, on retrouve un Goku qui est fidèle à lui-même. Il pense qu'à rencontrer le type le plus fort de l'autre monde, et une fois qu'il le rencontre, il veut l'affronter. Quoi. C'est basique, mais...
Mais c'est marrant de voir Goku qui procède toujours pareil, c'est-à-dire... En vrai, au final, s'il veut, il peut battre ses adversaires en les laisser, comme leur laisser une chance pour se tester ou découvrir leur capacité spéciale ou autre. Et ensuite, il aime bien répondre et se surpasser d'une certaine manière. En fait, il se challenge tout le temps. En fait.
C'est ça, il a toujours envie de se surpasser, quoi qu'il arrive, en fait.
Il y a ça, et puis ça permet de mettre un peu de suspense. Le fait que Son Goku ne se transforme en Super Saiyan qu'à la toute fin, c'est-à-dire en finale, ça permet de dire, bon, bah, c'est bon, là, il y va vraiment à fond.
Oui, ah bah, tu fais bien de parler. C'est d'ailleurs le bug, entre guillemets, l'erreur qu'on a eue quand il élimine le Ginyu Tokusentai.
Ah oui, l'erreur de Ginyu,
la fameuse erreur.
Il a les cheveux en l'air en pique, l'aura du Super Saiyan, mais les cheveux noirs, en fait.
Oui, les cheveux noirs.
J'en ai parlé à Mizu, il m'a dit, en fait, ils ont jugé que Super Saiyan, c'était beaucoup trop pour s'occuper d'eux seulement, en fait.
Donc, c'est pas une erreur de colo, mais une erreur de dessin, en fait.
Ouais,
en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le trailer de l'épisode de 194, donc qui annonce le 195, Son Goku est bel et bien en Super Saiyan. Donc, les cheveux sont jaunes. Et après, on revient à ce que vient de dire, justement, ce que vous venez de dire.
Parce qu'effectivement, c'était abusé de le mettre en Super Saiyan pour s'occuper du commando Ginyu, surtout au niveau où il en est. Et ce que j'ai trouvé un peu incohérent aussi, c'est dans la réaction de Frieza, quoi. Il s'étonne de les voir gérer comme ça, enfin de voir Goku les gérer comme ça, alors qu'il, quand il l'a affronté, c'était carrément un autre niveau, quoi. Donc,
tout à fait.
Et aussi, je trouve que Frieza, qui est totalement déférent envers Cell, il l'appelle Cell Saiyan.
Ah oui.
C'est très très drôle aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que Cell et Freezer se parlaient. Après, on verra ça un petit peu plus tard dans les épisodes sur Majin Buu, et on revoit ça également dans Dragon Ball GT.
Mais tu sais, de le voir, lui qui rabaisse tout le monde, enfin, il n'y a personne au-dessus de lui, à part son père, de le voir comme ça, très respectueux envers un autre.
Ouais, alors, c'est amusant.
Cell, vu qu'il est plus fort que lui, mais ça fait très bizarre.
Et tout ça, je pense, c'est une mise en scène, justement, comme... Vous avez dit précédemment, en fait, pour rendre Paikuan encore plus intrigant, encore plus fort, encore plus beau, plus mystérieux, je pense. Parce que là, de la manière dont il élimine Cell, c'est un niveau Super Saiyan 3, limite. Parce que là...
Il se met limite humilié, quoi.
C'est trop. C'est trop incohérent. Mais bon, après, c'est DHS.
Oui, c'est DHS, et il me semble que...
On va pas s'arrêter là-dessus.
Soit dans DBZ, soit dans GT, ils expliquent qu'en Enfer, ils ont une puissance bridée.
Ah oui ?
À mon avis, cette donnée ne devait pas exister au moment de l'élaboration de cet épisode. Okay. Ils voulaient mettre un nouveau personnage qui pourrait potentiellement devenir populaire, donc ils ont sacrifié Cell en quelque sorte pour le mettre en valeur.
Ça fait un peu too much, mais bon, ça passe pour un mini-arc.
Ouais, ça passe un petit peu.
Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même too much, quoi. Parce que Cell, on vient de finir le Cell Game, et voir que Cell se fait maîtriser aussi facilement, c'est un peu trop, toi, je trouve. Mais bon, après, je comprends sur le coup du petit mini-arc sur du filler. Bon, ça passe.
Surtout qu'il pouvait s'en passer, en fait, parce que on pouvait très bien dire que Cell était encore en train de faire la queue pour aller voir Enma, qu'il n'était pas encore en enfer, quoi.
Après,
ils avaient besoin de mettre ce personnage-là en avant, Paikuan. Donc, ils avaient besoin de montrer, regardez, le rival, c'est du sérieux.
C'est sûr.
Après, bon, ça reste l'animé aussi. Normalement, aucun des personnages ne devrait garder son corps. Normalement, dans
le manga, c'est
dans la logique. Vrai, oui. Dans la logique, c'est ça. Après, bon, c'est l'animé, ils s'en servent pour faire revenir les personnages. Mais c'est vrai que dans la logique, ils gardent pas leur corps. Donc, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens, effectivement.
Mais par contre, au niveau du combat Paikuan contre les méchants, tout ça, c'était. Je trouve au niveau style de dessin. Alors les noms des animateurs, j'ai toujours du mal à trouver le nom de celui qui officie sur les épisodes. Mais j'aime beaucoup ce style-là, qui est assez spécial quand même. Mais j'aime beaucoup et là, ça rend pas mal, je trouve.
Paikuan contre qui ?
Bah là, dans cet épisode-là, dans l'épisode quand ils sont en enfer. Hein. C'est le même animateur qui a fait la mort de Cell d'ailleurs dans le Cell Game quand il meurt.
Et du tout premier.
Bah ouais le tout premier ouais.
Du tout premier. Ah le tout premier c'est supervisé par Keisuke Masunaga.
Exact.
Et
Après, peut-être que la séquence n'est pas de lui, c'est juste lui qui a dirigé l'épisode.
Non, non, lui, il a homogénéisé le trait pour que tout l'épisode soit beau, cohérent au niveau du dessin, quoi. Mais il me semble pas que ce soit de lui, non.
On reconnaît bien au niveau le style avec les bouches, ils ont des bouches bien particulières quand c'est ce style de dessin et c'est ça me fasse j'ai l'impression que c'est le même qui a officié sur la mort de Cell. Avec on reconnaît quand même assez bien au niveau des bouches, c'est à peu près le même style, je trouve. Après comme je vous dis au niveau animateur tout ça, moi je suis pas trop les noms tout ça, je pourrais pas vous dire à chaque fois le nom de l'animateur. Ouais, du coup, je sais pas si c'est le même animateur qui officiait sur l'épisode de la mort de Cell, mais je trouve que le trait ressemble beaucoup. On voit au niveau de la forme de la bouche, c'est un style assez particulier, je trouve. Et je sais pas si c'est le même animateur, mais le style me fait beaucoup penser, en tout cas.
Bah, il me semble que c'est le même. Je sais plus exactement la mort de Cell, mais il me semble que c'est le studio Cockpit, le même que Masunaga et Iwane. Mizu saurait mieux nous en parler, mais
ouais,
il me semble que c'est le même.
Par rapport aux différences de dessin qu'on a d'un épisode à l'autre, je sais qu'il y a souvent ce style qui revient. C'est très prononcé au niveau des visages, surtout les bouches.
C'est assez pointu. C'est assez pointu en fait et très expressif.
Voilà.
C'est un style à part, mais qui arrive malgré tout. Je veux dire, il est off modèle, mais d'une certaine manière, ça dérange pas en fait. C'est assez beau et ça rentre bien. Ça rentre pas en contradiction.
Je trouve ça vachement efficace comme style, même si c'est vrai que c'est un peu spécial. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que là, dans cet épisode de 195, ça rend vraiment bien.
Ouais.
Bah du coup. Si vous le voulez bien, on va peut-être pouvoir parler des nouveaux personnages, puisqu'on a commencé à parler de Paekwan. Donc on va peut-être pouvoir parler des caillots, les nouveaux
des caillots
qui apparaissent.
Parce qu'effectivement, ça développe quand même tout le lore.
Nous avons le Dei Kaio, donc le roi Kaio. Alors lui, il est évoqué dans le manga par Piccolo.
Ah, Piccolo, oui.
Il confond Kaioshin avec le Dei Kaio.
Kaioshin. Donc,
c'est comme ça qu'on apprend son existence dans le manga. Donc le Kaio de l'Ouest, qui est donc le maître de Paekwan. Alors, petite question, savez-vous qui est-ce qui incarne le Kaio de l'Ouest?
Le Kaio de
J'aimais dire c'est l'Ouest. Mais...
oui.
Eh bien, il s'agit de Bin Shimada, la voix de Broly.
Ah oui.
Ah, d'accord.
Il est partout.
Il est toujours là, lui.
Il est toujours sur les bons coups, lui.
On en revient toujours à Broly, quoi.
Broly.
C'est pas du tout le même.
Il m'impressionnait vraiment parce que ça, tous ses autres rôles, ils ont rien à voir avec Broly en fait.
Ah bah. Babidi, quand il l'a repris dans DBK, ouais, rien à voir.
Ouais. Bah, vous savez, il fait aussi comment il s'appelle dans Dragon Ball GT là, les frères Para.
Ah oui.
Oui, c'est vrai.
Un frère Para.
Tout à fait.
Je ne sais plus son nom, mais il s'occupe d'un frère Para dans Dragon Ball GT.
Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au Dai Kaio. C'est postérieur. Enfin, dans le manga, c'était pas encore publié, ça.
De quoi?
Que la mention du Dai Kaio dans le manga, c'était
Le tome 30.
Oh, je sais pas si.
Je pense qu'il était déjà diffusé, oui. Ouais, il avait beaucoup d'avance, le manga.
C'était déjà publié, ça?
Je pense que oui.
D'accord.
Alors ensuite, nous avons donc le Kaio.
Oui, qui avait un peu. Approfondit le lore des Kaio en prenant la logique des points cardinaux, vu qu'on savait déjà qu'on avait le Kaio du Nord, donc en toute logique on avait trois autres plus un chef au-dessus, ça paraît logique, et je pensais que c'était dans cet ordre-là et que Toriyama ça lui avait plu et qu'il l'avait après inséré dans le manga, tu vois.
Non, il me semble que c'est l'inverse.
D'accord.
Ensuite on a donc le Kaio du Sud qui lui a deux très forts, deux combattants très puissants, donc il a Frog et le clone de Cell, comment il s'appelle, Torbi, voilà. Et il apparaît dans le manga, surtout dans le tome 36.
C'est le seul.
Et il est incarné par Sogabe, la voix de Thomas dans le téléfilm sur Bardock. Sugabe, c'est également donc la voix de Dr. Mew et de d'autres personnages, numéro 13 et dans Saint-Seiya, c'est Saga.
Qui ça, le caillou du sud?
Le caillou du sud, oui. Qu'est-ce qui t'a choqué?
Il me semblait pas en fait
Que quoi?
que c'était lui son CU.
Alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais en tout cas j'ai vérifié, il semble que ça soit Sogabé.
Je croyais de mémoire quand j'avais cherché qu'il y avait un lien avec Mister Popo.
Ah, tu pensais que c'était le même comédien?
Ouais, mais je sais plus du tout le nom, j'avais noté quelque part, mais.
Bon, bah, je revérifierai.
Ouais, on vérifiera par la suite.
Et ensuite, la dernière caillou que nous avons, c'est la caillou de l'Est. Alors, je pense que si c'est une femme, c'est peut-être un clin d'œil au magicien d'Oz, je ne sais pas. Elle est doublée par Keiko Yamamoto. Et bah, elle est hystérique, elle est colérique. Je peux vous l'avouer, je n'aime pas du tout la course de moto entre elle et Sengoku. C'est un passage qui. Je sais pas, j'y crois pas. Ça passe pas chez moi.
Bah, par contre, j'aime bien la chute, moi.
Ouais, avec le roi Caillou.
Enfin, j'aime beaucoup le personnage du Dai. Pour moi, il est très
Ah,
Toriyama-esque.
il est
Je
excellent, j'adore
sais
aussi.
pas s'il s'est impliqué dans ce personnage, mais bon, déjà au niveau chara-design, il nous rappelle forcément que Clémé Sénine. Mais il est quand même différent au niveau caractère. Il est plus jeune. Il parle en verlan. C'est
C'est
surprenant.
ah oui, j'aime beaucoup son tic de langage.
Ouais, il parle en verlan. Bon, il appelle tout le monde Chan aussi, forcément, vu que c'est lui le plus âgé. Et sa voix aussi est surprenante, parce que son Seiyuu a une voix très aiguë. Tu t'attends à une voix un peu d'ancien, à la Kame Sennin, un peu sage, un peu
Ouais.
grave, comme ça. Et en fait, non, il a
Saitachi Ryuji.
une voix très mignonne, comme ça, très, très, très aiguë. C'était surprenant. D'ailleurs, ça fait aussi bon, une incohérence a posteriori. Mais quand le Kaio du Nord évoque le Dai, il dit que c'est lui le plus haut dans la hiérarchie et dans la puissance de l'autre monde.
Ouais.
Chose qui est
Ouais.
invalidée tout de suite après par les Kaioshin, puis après plus tard par DBS. Mais bon, ça, il pouvait pas le prévoir. Mais c'est le risque aussi quand on développe un univers qui n'est pas le sien, quoi.
Juste quand même pour le Seiyuu, Ryuji Sekachim nous avait malheureusement quitté, donc il est décédé le 29 septembre 2017.
Oh, c'est tout
Oh.
récent. J'ignorais.
Ah bah
Désolé.
tiens, tant qu'on parle des CU, je viens de rechercher. Donc du coup, le caillou du sud, moi, je l'ai devant moi, là, ce serait Tokyu Nishio. Et c'est bien le CU de Mister Popo.
Ah.
Ouais.
Ça tombe bien, ils ont les mêmes lettres.
Ah, bah, je crois qu'une petite correction s'impose sur la page Wicca.
Tu vois, ça sert.
Voilà.
Exactement.
Voilà.
Donc voilà pour les nouveaux caillots, du coup.
Voilà, après, on
Ouais, et
parle.
vous avez vu, on n'a pas aussi cette espèce d'incohérence. Enfin, il y a un espèce de mystère qui tourne autour du Daikaio. Je trouve ça intéressant au niveau de sa puissance.
Oui,
Ouais.
mais en fait,
Ah, c'est un grand classique, ça.
il promet de donner des cours à qui s'entraînera suffisamment longtemps, mais on voit qu'il n'en a pas vraiment envie, en fait.
Non, non, pas du
Là,
tout.
c'est
Mais
un
ce qui est
fainéant notoire.
intéressant, ils nous mettent l'eau à la bouche en fait tout du long parce que dès le début avec la course qu'il fait avec la Kaio de
Oui,
l'Est, on
oui.
voit le Daikaio en fait qui est à la ligne d'arrivée, on sait pas comment, alors que 2 secondes avant il était
2 secondes avant, il
au
dit, ah, c'est le moment. On
départ.
se demande si est-ce qu'il a triché ou est-ce qu'il est vraiment hyper rapide, quoi. Donc ça, on saura jamais, mais c'est vrai que le mystère autour de ce personnage est vraiment intéressant. Du coup.
Ouais, ça reprend un peu la moelle avec Kame Sennin. Au début, on le prend pas vraiment au sérieux. Même avant qu'il fasse le Kamehameha, on prenait pour un clown, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
On retrouve la même vibe de ce personnage. Ça qui
Ouais,
est.
c'était un plutôt. C'était vraiment un bon personnage. Bah là, on va peut-être pouvoir passer aux combattants. Voire même au combat, d'ailleurs, directement, si ça
Oui,
vous
rien que
va.
l'idée
Ouais.
du tournoi qui plaît direct au Dai. Oh bah allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas amusé, on va organiser ça. Vu la rivalité entre entre le caillou du Nord et de l'Ouest. Ça renvoie un peu le même thème qu'il y a après dans DBS, hein. Entre Chibiru sur Empire et puis Zeno, quoi.
Bah, là, ce qui est intéressant, c'est qu'autant on a eu le Cell Game. Le Cell Game, c'était un adversaire contre Cell, donc pour moi, c'est pas véritablement un tournoi. Oui, mais là, on retrouvait vraiment les fondements de Dragon Ball, c'est vraiment les Tenkaichi Budokai. Sauf ça, que là, ce qui était bien, c'est que l'univers était tellement vaste que tu avais plusieurs créatures, plusieurs races.
Mm-hmm.
Et ça, c'était intéressant. Ça changeait.
Et le fait,
c'était rafraîchissant.
Le fait d'avoir des combattants qui sont là depuis des milliers d'années pour la plupart.
Mm. Ouais.
Donc ça permet d'avoir des niveaux de puissance cohérents avec le niveau de Goku actuel, quoi. Donc d'avoir des opposants qui puissent rivaliser. Soit en puissance, soit en technique d'ailleurs. Parce qu'on verra que dans les combats, il y a des gens beaucoup plus faibles que lui, mais qui ont des techniques particulières pour le tenir tête, quoi.
Oui, des techniques très particulières. Bah, on peut penser à Caterpie. Caterpie, l'espèce de chenille là, qui affronte son Goku.
Oui, qui se transforme, oui, et que ça prend je sais plus combien de...
Mais ça, j'ai l'impression que ça sort directement de la tête de Toriyama, ce gag. C'est pas possible.
Ouais, c'est vrai, ça pourrait.
Ouais, on retrouve sa patte, je trouve.
Alors, c'est des gags qui auraient pu venir de lui, ouais, c'est clair.
Pareil, juste avant, sa manière de se battre, on se dit, oh, ok, il a plein de mains, il va pouvoir faire plein de coups de poing, etc. Non, il attrape Goku et il lui fait des chatouilles. On aurait vu ça dans Dragon Ball, le tout début. Pas dans Dragon Ball Z.
C'est donc, vrai.
Et j'adore la tête que fait le Kaio du Sud, d'ailleurs, à ce moment-là. En mode, je m'en fous, il sait le jeu. Et celui du Nord qui est totalement blasé, évidemment.
Ouais, non, ce passage était extrêmement drôle. Et puis après, bon, bah, on arrive effectivement au huitième de finale où les meilleurs combattants s'affrontent. Et là, on a quand même du lourd, mine de rien.
Non,
déjà, on a Olibu. On n'en a pas parlé, Olibu.
Ils sont 16.
Alors lui, ça pourrait peut-être entraîner une incohérence puisque c'est un autre élève du Kaio, le Kaio que nous connaissons. Et qui est extrêmement doué, on peut le dire.
Mais il vient de l'Antiquité aussi, donc...
Comment ?
Ils disent qu'il vient de l'Antiquité, il est très très vieux, donc...
Ah oui, tout à fait.
C'est pas vraiment...
Oui, mais il est inspiré du temps, de la Grèce antique, tout ça, non, il me semble. Mais de toute façon, avec son nom, Olibu, ça reprend l'Olympe, il me semble, le mot Olympe en Grèce. Puis on nous dit que c'est un héros mythologique, donc forcément, il doit être inspiré soit d'Hercule, soit d'Ulysse, quelque chose comme ça, quoi.
Oui, il a un physique très grec, de toute façon.
Oui, avoir ses accoutrements.
Oui, son accoutrement, avec les espèces de sandales, là.
Mais d'ailleurs, je voulais revenir au tableau qui montre les concurrents au tout départ. Il y a un petit faux raccord aussi, parce qu'il y a 4 participants par galaxie, donc ça fait 16 combattants à la base. Donc le premier tour, tu as 8 matchs. Sauf que quand tu regardes bien le tableau du tournoi, il y a plus d'une soixantaine de matchs dessus.
Quoi?
Ouais. Ils ont dessiné un peu trop, sont laissés un peu trop emporter en dessinant, je pense.
Ah bah tiens, je savais pas.
Et d'ailleurs,
pour Olibu, c'est le seul qu'on ne voit pas combattre dans le film 12 parce que le personnage est beaucoup plus puissant que les autres, que Frog, Aqua, donc du coup, ils ont pas pu le faire combattre si ce n'est qu'ils auraient dû faire durer le combat.
Et son premier combat contre c'est Chapchai, il me semble, le tout petit, là, moustachu, ça renvoie à un temps mythologique aussi, David contre Goliath. Vu la différence de
Ah gabarit. Oui, c'est vrai que la différence de gabarit, elle est assez énorme.
Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil à la transposition, à la technique de la transposition de Kame Sennin, quand Chapchai il se démultiplie. Bon, après, on se rend compte qu'il est vraiment physiquement...
Oui, physiquement, ils sont vraiment très nombreux.
Mais au début, on repense forcément à cette technique et ça renvoie à tous ces anciens tournois et c'est vraiment rafraîchissant de ce côté-là.
Sans parler que la musique est issue de la première série Dragon Ball, en plus.
Oui, exact.
Des tout débuts.
Mm-hmm.
Ouais, non, au début, il a eu un droit à un bon traitement, même si son combat est assez classique contre Paekwan, avec les fameuses jettes de lumière, avec les fameux contres, mais... Le combat est sympathique, mais il n'est malheureusement pas très marquant. Il n'y a pas cette touche d'originalité, en fait.
Bah d'ailleurs, je me souvenais, avant de le revoir, je me souvenais même pas qu'il l'affrontait. Donc,
Ah ouais?
Ouais, j'avais un peu oublié ça.
Ouais, c'est ce que je disais, il n'est pas marquant.
Vous savez aussi me fait penser à quoi ce tournoi? J'ai l'impression que c'est une technique aussi chez Toei Animation pour faire redescendre la pression. Ils ont fait exactement la même chose dans Dragon Ball GT, juste avant l'arc Super numéro
17.
17,
Ah, c'est
il me
vrai, il y avait
semble.
le tournoi.
Et il y avait
Je
un
savais
petit
même pas.
tournoi assez sympathique, vous savez, assez humoristique, où Goku il se fait même éliminer, bah, encore une fois, par des Guilis, par un jeune terrien, en
Ah,
finale
c'est
des
pendant
juniors, il me semble.
l'espèce de jeu de loi, là.
Ça dure un épisode à peine. Non, 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 pas l'espèce de jeu de loi. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un vrai Tenkaichi Budokai, même avec Satan en finale qui affronte Papa Yaman. En fait, c'est Ub, mais
Ah
déguisé.
oui, je me rappelle de Oub
Ça
dans ce
y est.
tournoi.
Vous voyez,
Oub.
j'ai l'impression que ces tournois, ils sont là pour faire redescendre la pression de l'arc précédent et
C'est ça.
préparer au prochain arc d'une certaine manière. Et on
Absolument.
a un moment dans un affrontement, ça ressemble à... Qui c'est qui se bat? Qui élimine Frog, le dragon, comment il s'appelle déjà? Malaiko.
Malaiko.
Ouais, et ben on a à peu près le même principe de combat avec Pan dans ce tournoi. Il y a un géant qui arrive
C'est ça.
et il l'écrase avec le pied, elle prend son pied, elle le balance. Mais le mec, il est géant, il fait 100 mètres le
Ça
bordel, c'est
respecte.
n'importe quoi.
Ça respecte la logique un peu implicite de Toriyama, ouais, qui fait que le plus
Ouais.
imposant ne l'emporte
Le
pas
plus
forcément.
petit est toujours plus fort que le plus grand.
C'est
Et
ça. C'est ça.
d'ailleurs, dans les combats random avant l'écart, on a des trucs comme ça. Il y a des victoires par humour aussi. Un type qui s'assomme tout seul en sautant trop haut, par exemple.
Ouais, je me rappelle, c'était bien idiot ça.
C'est totalement débile, mais c'est marrant. Et oui, pour Frog, qui essaye d'être la grenouille plus grosse que le bœuf, pour le coup, qui
Ah, Frog,
remplit.
c'était vraiment très très drôle. Moi, ça m'a
Il
toujours
remplit
amusé.
tout le ring, quand même. Et
Ça
l'autre
m'a
arrive
toujours
à
amusé,
l'enlever.
d'autant plus que ça met bien en valeur Maleko, qui finalement on a dans le ventre, si je puis dire.
Oui, en fait, et d'ailleurs, quand tu y penses, ça, c'est une double. Enfin, il y a un retournement, parce qu'au départ, c'est Frog qui est tout frêle par rapport à Maleko, qui est quand même assez
Et on a de
imposant.
l'empathie pour lui.
Et après, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, c'est Frog qui devient gigantesque, il fait toute l'arène, et Maleko arrive quand même à le soulever et à l'envoyer au loin, quoi. Donc, c'est plutôt une belle prouesse de sa part.
Ouais, c'est un passage très sympa. Et Maleko, il est pas sans faire rappeler le dénommé Guilan, là, dans le
Oui,
Tenkaichi
ouais, c'est vrai.
Budokai.
Ouais, il ressemble beaucoup. Ouais.
C'est ce que j'avais noté, il ressemble à Guilan et aussi au dragon de Gohan, je trouve, un peu.
Ah, Higher
Ouais, c'est un
Dragon.
joli mixte, bien joué.
Un jeu, ouais, un peu un mix des deux. Et d'ailleurs, tu avais noté une incohérence à propos de ce personnage, il me semble.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que dans l'épisode 197, il appartient au Kaiello de l'Ouest. Donc là, il est. Le Kaiello de l'Ouest, c'est le maître de Paekwan, pour info. Et dans l'épisode suivant, il appartient au Kaiō du Sud, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais.
Oui, c'est possible.
Et du coup, ouais, c'est assez incohérent. C'est assez incohérent et ça
Ouais,
n'a
je
jamais été
crois.
expliqué. Je ne crois pas que les Daizenshuu reviennent là-dessus. Je pense qu'à terme, il appartient au Kaiō du Sud. Et puis, basta.
Ou alors, c'est qu'il a déménagé pour payer moins d'impôts.
Je pense que la véritable raison là-dessus, c'est que il y avait beaucoup trop de combattants du Kaiō de l'Ouest
De l'ouest, ouais.
et ils se sont dit bon bah on va en rajouter
Et
un
un peu
au Kaiō du
déséquilibré,
Sud
ouais.
parce que lui il lui est resté quasi plus rien et c'est
C'est
pour
vrai
ça.
que, par exemple, l'Est, elle se retrouve qu'avec un seul combattant pour les phases finales, quoi. Donc, c'est un peu déséquilibré de ce côté-là. Ouais.
Est-ce que c'est exactement ça? C'est une question d'équilibrage.
Ah, du coup, ça doit être l'inverse. J'avais noté les combattants, tiens. Ou alors, non, c'est quand il les présente. Ouais, l'Ouest a Paekwan, Malaiko et Tapika. Donc c'est peut-être là. Et après, il appartient au Sud, alors, en ce moment. Comme tu disais.
Eh ben, concernant les autres combattants, donc là on a un petit peu évoqué Frog.
Il
Est-ce
y avait
que
Torbi
quelqu'un veut parler peut-être comment il
Torbi
s'appelle, de Torbi?
contre Tapika, par exemple. J'avais bien aimé le climax humoristique de ce combat. Parce que Tapika, pour rappel, il est super rapide. Il est tout petit, mais il a un jeu de jambes détonnant. Même Goku dit qu'il va plus vite que lui. Mais à la fin, il tombe à la renverse parce qu'il est trempé de sueur et tout, il a tout donné. Et du coup,
Ouais,
Il
c'était
a
très
propre.
drôle.
D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi tout le stade, vous savez, le fameux, ce qui se passe dans les animés
Le
quand
stade qui se
tout se
retourne.
drôle, tout le monde
Ah
se...
oui.
Et là, c'est tout le stade qui se renverse au fur et à
C'est
mesure. On aurait dit une holla avec les pieds, quoi.
C'est
vrai,
pas
hein.
faux.
Ça m'a bien fait rire. Et après,
Bah.
l'Ouest qui reste stoïque et qui explique sérieusement pour quelle raison son poulain il abandonne, quoi. Alors que le Caillou du Nord qui arrive et désamorce, il se fout de sa gueule en lui disant arrête de prendre un air si sérieux pour dire ça. C'était très drôle.
Il y a même le
Bah, t'as
Daikaiyo qui est tombé de
Picard.
son, son siège, je crois, d'ailleurs.
Oui, plusieurs fois. Ça arrive aussi le d'ailleurs.
Bah, t'as Picard, on peut le dire quand même, il est grandement inspiré de la série Doctor Slum. C'est-à-dire qu'un personnage dans Doctor Slum, le jeune frère de Taro, porte
Ah,
à peu
Pisuke.
près le même casque. Et
Pisuke.
t'as Picard court exactement de la même façon qu'Aralé et Obochaman dans Doctor Slum.
C'est ça, c'est vrai que c'est une référence évidente. Tu fais bien de le souligner.
Ouais, son défaut, c'est qu'il a tellement l'habitude de courir sur la minuscule petite surface de la planète de son caillou.
C'est ça.
Et bah du coup, bah voilà, il n'a pas
C'est ce qu'il
l'habitude
dit.
de courir sur une grande
C'est ce qu'il dit
surface.
le caillot de l'Ouest. Il dit ouais, le terrain était trop grand, etc. Enfin, on voit la mauvaise foi.
Parce qu'à l'époque, on pensait que toutes les planètes des caillots, les quatre caillots, en fait, ils avaient la même taille. Ce n'est que bien plus tard avec Dragon Ball Super, ou le film Dragon Ball. Battle of God, qu'on a compris que c'était dû à Beerus si la planète de Kaio, celui que nous connaissons, était aussi petite.
Oui, c'est pour ça, la Toei, quand ils ont développé ça, ils ont juste copié, enfin, fait des clones des planètes et puis basta, quoi. Ce qui était logique à l'époque.
Ouais.
Bah ouais.
Après, le premier combat d'importance, c'est Goku contre Aqua, du coup.
Excellent combat.
Ouais, j'ai bien aimé ça.
Ouais, j'ai bien aimé aussi, ouais.
Très original. Parce que
Ouais.
on se dit qu'il est tout faible, etc. Il va s'en débarrasser assez vite. Et
Je me
puis.
rappelle encore de cette réplique de Patrick Borg. Il disait justement, oh, j'ai vraiment pas de chance avec mes adversaires. Parce que c'est vrai qu'il l'éjecte d'un simple coup de pied, on attend la suite. Et Aqua devient super badass quand il se fait réprimander par Sakayo.
Oui, et dès que, ouais, dès qu'il est dans l'eau, il a même les yeux injectés de sang, il fait presque peur. Il change complètement de personnalité, quoi. Et puis, on voit aussi la gueule dépitée du Caillou du Nord qui se met à bouder, j'aime beaucoup ça aussi. Il dit, oh, mais c'est pas juste. Et puis après, ils disent, mais si, il a le droit, c'est une technique, il peut transformer le terrain s'il veut. Mais voir le Caillou du
Ouais.
Nord qui bouge, c'est très marrant.
Ouais, Sangoku le vainc par le Taioken de Tenshinhan, justement.
Oui, là
C'est
aussi,
comme ça
on est
qu'il
encore
sort
dans
de
la
l'eau.
nostalgie, quoi. C'est des techniques qu'on voyait plus depuis un moment.
C'est vrai.
On retrouve un peu ce côté Dragon Ball, hein, de ce côté-là.
Ouais, au final, ce tournoi, c'est pour nous rappeler un peu les sources d'où on vient d'une certaine manière.
C'est ça,
Pour
ça rappelle les
voilà.
sources.
Ouais. Mais ce qui est marrant avec ce combat aquatique là, moi, je sais pas pourquoi. Bah, bon, la première fois non, mais maintenant, avec un revisionnage, j'ai pensé au combat des hommes poissons avec One Piece. Je sais pas si ça vous parle.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ouais. Et bah, ça me faisait penser à peu près pareil, que comme Zoro contre Odie par exemple, ou plutôt
Oui,
Zoro
c'est vrai.
contre Hachi. C'est un peu le même principe, quoi. Fois dans
Ah, c'est
l'eau,
vrai,
ils
ouais.
sont méconnaissables, ils sont beaucoup plus forts et ils ont une
Ah, ils sont plus
supériorité.
agiles, tout ça, ouais.
Oui, voilà.
Ah, puis à noter aussi que c'est la première fois que Goku fait le Kamehameha pour s'en débarrasser, du coup. Et là, Paekwon, on voit qu'il est surpris, voire impressionné par Goku pour la première fois.
Oui.
C'est
Parce
vrai.
que jusqu'ici, il le prenait pas trop au sérieux quand même.
Ah là, refrain connu avec Jiren.
C'est un peu ça. Par
Quitte.
contre, on commence les choses sérieuses, on le sent rien qu'à la musique qui devient plus DBZ, là pour le coup, quand il y a le quart de finale entre Olive et Paekwon. En plus, ils sont tous les deux favoris du Dai. Ils les encouragent tous les deux. Et là, on a un autre combat, quoi. C'est vraiment un combat beaucoup plus sérieux pour le coup.
Oui, très
C'est un
Z.
très beau quart
A
de finale.
priori, Olibu et Paekwon s'étaient déjà affrontés auparavant et beaucoup attendaient la finale Olibu-Paekwon.
Oui, on sent que c'est une finale avant l'heure limite pour les spectateurs et tout.
Là, le
Je sais
combat est
pas pourquoi
vachement
ce
intéressant, je
combat
trouve.
entre... Ouais.
Hein?
Non, vas-y, vas-y.
Personnellement, ce combat entre Olibu et Pacquan, bon, rien à voir, mais il me faisait penser à celui, un autre combat que j'aime énormément, c'est celui de Mirai Trunks et Tenshin Han.
Dans ah le oui, film, c'est vrai, même époque.
Oui, d'accord.
C'est dans le film numéro combien, 9
9, oui.
Ouais, 9. Avec parce Goku. Qu'on a des petits trucs sympathiques, rigolos avant. Ensuite, on arrive à une scène de deux opposants plus ou moins sérieux et bim, on a un super combat. Et je sais pas pourquoi, avec de l'intensité, ça m'a fait penser à ça.
En
d'un
bon
coup.
Ça... Parce que niveau mise en scène, ça ressemble un peu à ça, effectivement.
Mmh.
Bien vu.
Ouais, bien vu.
Je pense que l'écart, on a fait le tour. Du coup, on peut peut-être passer au demi-finale.
Bah, on va avancer sur Torbi. Tout à l'heure, je l'ai évoqué un petit peu.
Torbi contre Pycon, oui.
Ouais, le clone de Cell. Ah, il oui. est grandement inspiré de Cell.
Un peu plus insectique
ah, oui.
que Cell, pour le coup. Parce que lui, oui. il y a vraiment les ailes d'insectes qui sortent quand il vole. Mais effectivement, on peut ne que penser à Cell au niveau chara-design.
Effectivement, malheureusement, il n'a pas un rôle très facile puisqu'il est humilié par Pycon et en plus hors champ. On ne sait pas comment il est vaincu.
Mmh. Oui, parce que pendant ce temps-là, Goku est en train de manger, il me semble. Et ouais, ouais, c'est vraiment irrespectueux pour ce personnage.
c'est pas faux.
Et en plus, il sort. C'est le seul qui sort.
Mais au final, on a.
C'est assez violent quand même. Il y a le seul qui sort. Tous les autres sont soit hors ring, ouais. soit ils abandonnent. Lui, il est KO. Mmh. Pour le coup.
Au final, on a la logique Toriyamesque un petit peu. C'est le perso au chara-design presque le plus classe.
Oui.
Qui se fait exclure de la manière la plus ridicule en fait.
C'est un peu ça aussi, oui.
Ça, c'est... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont appelé Toriyama dans les studios là pour ces 5 épisodes. Je sais pas.
Ouais, mais... on sent un peu son esprit, je sais pas s'il était impliqué là-dedans, mais. En tout cas, ils ont réussi.
Ah ouais, enfin, Pycon est aussi également très très classe, mais c'est juste que, ouais, Torbi. Moi, c'est vrai que j'avais une petite attente en le voyant la première fois et ouais, hélas.
Attendez à ce qu'il fasse des trucs assez stylés. Mm.
Ouais, c'est dommage. Alors qu'en dehors de ça, Maleko, bah, il a le droit à un vrai combat, lui, du coup, avec son Goku.
Ah oui, parce que ça s'affronte un moment avec Goku. Il joue même au casse-brique. Avec
les il envoie des comètes.
Les petits planétoïdes, là, oui.
Exactement.
Et bon, après, Goku arrive quand même à le maîtriser et tout, mais... Mais effectivement, il a droit à un combat un peu plus sérieux. Quoi.
Un peu plus sérieux. Il a de très bonnes animations tout au début du combat, lorsque Son Goku esquive sa queue, notamment. Oui. J'aime beaucoup l'animation de ce passage-là.
J'aime cet épisode. C'est le combien? C'est le 198, non?
Oh, ouais, 198.
C'est l'avant-dernier.
Ouais, moi, je l'aime pas beaucoup, cet épisode. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans fixes et de plans... Et ces téléportations... c'est assez foireux, je trouve, les plans. Bah, après, c'est un épisode supervisé par Ebisawa, donc un peu la bête noire de Dragon Ball Z. Mais non, moi, cet épisode, il m'a pas particulièrement emballé. Encore si c'était du Uchiyama. Uchiyama, l'épisode juste avant, il s'en est occupé. Uchiyama, il a un dessin pas terrible, mais son animation est beaucoup plus correcte. Mais là.
Ah, il y a quelques séquences quand même qui sont sympas. Vraiment, au tout début de l'épisode 198. Après, oui, niveau des plans fixes, sur la fin du combat avec Maleko, je suis d'accord.
Oui, après, c'est des techniques pour gratter du temps d'antenne et passer à l'épisode suivant. Hein. Oui, ils font avec leurs points forts, points faibles, on va pas leur reprocher après.
Vraiment en attente du combat final, c'est sûr.
Ah, même le début du combat contre Pycon, je trouve que c'est pas super joli.
Non, mais tu vois la transition avec l'épisode juste après, qui est Nihara, qui est beaucoup plus propre. Bah, ça ressemble un petit peu à, vous savez, l'épisode 120-121, le fameux paradoxe Dragon Ball Z. On passe de Nakatsuru, Shida, je sais pas trop, à... Bah, pareil, à Ebisawa.
Bon, par contre, pour le combat de Goku contre Maleko, enfin, une fois qu'il a terminé, t'as pas Pycon qui fait une remarque par rapport à Goku, il pense qu'il a progressé depuis la dernière fois. C'était il y a 2 heures et Goku il a rien montré quoi encore, donc je trouvais ça un peu bizarre comme réaction.
Ouais, c'est un peu ça ce qu'on attendait. Donc effectivement, on va arriver vers la finale directement, la finale. Où Pycon affronte Son Goku.
Et Pycon qui a une très très bonne clairvoyance pour moi, Parce qu'à un moment, en parlant de Goku, il dit il a de l'assurance ou alors il est complètement idiot. Et effectivement, il a très bien cerné le personnage.
C'est un peu des deux, je pense.
Parce que c'est un peu des deux, beaucoup des deux même. Donc au début, bah, on a un échauffement classique, hein, de toute façon, il se jauge de chaque côté.
Et puis on a le passage, le fucking passage à la Piccolo, c'est-à-dire que Paekwan retire ses poids d'entraînement.
On passe aux choses sérieuses, parce qu'on a l'impression qu'ils sont en égalité, voire que Goku mène un peu, mais dès qu'il enlève sa tenue, c'est autre chose, quoi.
Ouais. Mais du coup, Paekwan, je trouve qu'il est, il est, enfin, il est très, il est, il ressemble beaucoup à Piccolo, un peu trop,
ouais,
d'ailleurs, je trouve. C'est justement, je le trouve pas très original comme personnage au final.
Parce à quel point que quand j'étais petit, je me demandais si c'était pas un Namek.
Ouais.
Beaucoup. Il y en a plein qui ont pensé que c'était un Namek. Il y en a plein.
D'ailleurs, dans le public, j'ai noté un moment dans tous les personnages random. À un moment, on voit un Namek, mais sans nez.
Ah.
Comme si Kuririn était Namek. Et...
Puisqu'on parle du public, il me semble que Gogo Hawkman est dans le public. Il y a toujours des clins d'œil.
Oui, bien, ouais.
Ouais, il y a toujours des clins. La toile, il fait toujours des clins d'œil dans le public lorsqu'il faut un tournoi. Et là, en l'occurrence, il y avait Gogo Hawkman.
D'accord.
C'est dans le passage 99, je crois, non?
Ouais, je remate.
Ah, il faut être attentif.
Ah, je l'ai raté.
On postera de toute façon l'image pour la partie vidéo. Si on parvient à la sortir dans les temps.
Ça, c'est sympa de mettre des clins d'œil comme ça.
Ah, c'est un classique de la Toei de faire ça. Non, non. Par contre, je note que Paekwan, que ce soit dans tous les jeux vidéo où il est apparu, il n'est jamais apparu sans ses poids d'entraînement. Jamais.
Oui, il laisse toujours.
Ouais.
Les gens le préfèrent largement avec ses poids d'entraînement.
C'est étrange.
C'est vrai qu'il fait assez quelconque ça. Enfin, je sais pas, moi il m'impressionne moins. J'aime pas trop l'allure qu'il a.
Par contre, au niveau psychologie, comme tu disais, oui, ça c'est un peu trop calque Piccolo dans cet arc.
Oui.
Alors que dans le film, moi je trouve qu'il s'individualise plus. Quand on le voit en train d'insulter la barrière ou ce genre de choses, il se dénote plus de Piccolo, quoi, je trouve. Donc on le voit pourtant pas autant de temps, mais paradoxalement, il est un peu plus développé dans ce film, je trouve.
Bah dans le film, il est confronté à une situation qu'il ne connaissait pas auparavant. Il est supposé insulter une barrière, et on voit qu'il est complètement mal à l'aise par rapport à ça.
C'est ça.
Et c'est ça le gag. Le gag, il est là. Mais et dans le film, justement, Paekwan est le seul à avoir compris finalement le point faible de Janemba. Alors certes, ça dure quelques secondes son combat, mais ouais, il l'a mis brièvement en difficulté.
Oui, parce qu'après, on le revoit plus avant la fin. Donc,
ouais, il se fait assommer.
Mais du coup, je le trouve plus intéressant dans ce film. Il sert pas juste de rival à Goku.
Bah, c'était un beau cadeau de l'avoir mis dans le film. C'est vrai que c'est un personnage, entre guillemets, un filler qui vient de l'anime. Et de l'assumer comme ça, tout comme ils ont assumé l'enfer, ce qu'ils en ont fait dans la Dragon Ball Z, pour moi, c'était une bonne idée.
Je trouve que c'est des bonnes utilisations, ouais.
À partir du moment où tu avais la présence de Vegeta, c'était impossible de faire le point central du truc Goku et Paikuhan.
C'est vrai.
C'était pas possible.
Il y en a beaucoup qui adorent la façon dont Vegeta regarde Paikuhan, justement, lorsqu'il doit fusionner.
Oui. Pour revenir rapidement sur le combat Goku-Paikuhan, vous savez à quoi le final il me fait penser? Le final, vous savez, Goku, quand il attend le moment opportun pour contrer la technique ultime de Paikuhan.
Ça me fait très penser à Senseiya.
Senseiya, oui, aussi, bien sûr, Senseiya. Mais si on reste dans le cadre de DBZ, le fait d'attendre le moment de vulnérabilité comme ça, ça me fait penser d'une certaine manière un peu comme contre Cell, quand il dit à Gohan maintenant, ou comme contre Hachiak, vous savez, dans
Hachiak,
le jeu Play
ouais,
Dia,
je pensais à ça, ouais.
Quand il dit à tout le monde maintenant, c'est le moment, vous savez, il compte. Il y a un moment où il faut lancer les attaques. Ben, pour moi, ça m'a fait penser à la même méthode, parce que Hachiak aussi met du temps à faire son attaque. Et pour moi, c'était à peu près la même chose.
Et il le fait aussi contre Tenshinhan, ça, de trouver la faille et d'intervenir au bon moment.
Quand ça déjà?
Le deuxième combat, il me semble.
Mm-hmm. Je me rappelle plus exactement le moment.
Mais ouais, on retrouve ce côté technique qui manquait depuis DBZ, depuis Cyborg, Cell, etc., quoi.
Ouais, contre ce
C'est
fameux
vrai.
Thunder Flash à l'allure d'un
J'ai beaucoup,
Pegasus
c'est vrai.
Liu Seiken
pour Charnalk.
Ah, je vous ai mis une petite capture d'image et on
Ah
voit
ouais, Blue
même.
Blackman.
Et on
Ah
voit
oui.
même
Toriyama.
Toriyama.
Ouais. Qui est mort
Exact.
d'ailleurs.
Il est partout, il est partout.
Elle est où la capture?
Sur la con.
Sur Skype.
Ah, j'ai une sale connexion.
Ah, tant pis.
Il y a une
Il a
sorte de
changé.
Gohan avec un turban à la Piccolo.
D'accord, ouais.
Et à gauche, il y a Toriyama.
Ah, oui.
Mais oui, en tout cas, pour revenir sur le combat final, oui, c'était pas un combat foufou, mais je crois que ce qu'on a tous noté à ce moment-là, bah, c'est l'association du Super Saiyan et du Kaioken.
Qui dure pas très longtemps, mais qui c'était pas une mauvaise idée sur le moment, quoi.
Oui, ils ont devancé l'épisode 39 de Dragon Ball Super
C'est surtout que voilà,
X années à l'avance.
dans DBS, ils ont repris l'idée au final, ils ont rien inventé.
C'était un flash forward, voilà.
Ouais. Mais j'ai du coup dans mes souvenirs et ça a duré plus longtemps le Super Kaioken. Et là, en revoyant, je me dis ah non, ça va en fait. Il l'utilise juste pour s'extirper de son hyper tornado. Et ça passe. C'est pas. Il tire pas sur la corde, quoi. Ça fait pas trop incohérent. D'ailleurs, au passage, les techniques de Paekwon sont très originales parce que c'est pas. Il fait des Kikoa, bien sûr, mais ces deux attaques phares, c'est quand même une tornade et des flammes.
Ah
Ça
oui.
fait pas Dragon Ball, ça fait plus Senseiya pour moi, ce genre de truc.
Ouais,
Ouais,
c'est vrai que
totalement.
le
Ouais,
combat
c'est
fait très
vrai.
Saint-Seiya. À la sauce Dragon Ball, ce qui fait peut-être un peu étrange.
Ça fait. Ouais, mais c'est original. Ça
Non, ça
change.
passe, je trouve.
Je trouve que ça change
Ouais.
comme procédé.
Ce qui est drôle aussi dans le public, c'est que là j'ai mis la capture également. On voit également le père du héros de Dragon Quest V, qui connaît une mort atroce d'ailleurs, soit dit en passant, et lui aussi est dans le public, donc ça m'a beaucoup amusé. C'est le
Oh, ça, j'aimerais
moustachu.
bien voir l'image, tiens.
Ouais, sur Skype.
Live.
Quand ma connexion sera meilleure.
Il est il est tout à gauche. Mais
On peut aussi
voilà, en
parler
tout cas.
de la beauté de cet épisode, hein. Ça tranche assez avec tous les autres épisodes, hein. On a vu que c'était un arc un peu de transition. Je pense qu'il a permis aux équipes de souffler aussi, d'une certaine
Ouais, ouais,
manière,
ouais.
pour mieux préparer l'arc avec Gohan qui a 16 ans, tout ça, tout ça. Mais par contre, ce dernier épisode, on a une bonne
Ah, il
team
est
dessus.
super.
On a Miyahara, Shida, Akira Inagami, que des bons. Bah, Miyahara, il a, par exemple, il a. Il me semble que c'était lui, vous savez, quand Gohan se transforme et qu'ensuite on a le gros plan avec Gohan et juste les petites larmes comme ça.
Ah oui.
Ah oui, ce fameux plan, oui.
Bien
Ça, par
joué.
exemple, c'est lui. On a du Shida aussi, il me semble.
Parce que là, on retient quand même pas mal le plan où ouais, Paekwon et Goku sont point contre point et visu sur leur visage en fond, quoi. On contrôle.
Ouais, non, ça ouais, oui, ça, même la réalisation, ouais, à ce niveau-là, elle est top.
Très beau plan, ça.
Ouais, c'est génial.
Ouais, je suis d'accord.
Et puis après, oui, on fait écho à Cell avec un Kamehameha en téléportation.
Ouais.
Bon moment. Hop, ça l'envoie hors ring, je crois. Et le Dai qui retombe sur ses pattes quand même en sortant une règle obscure du fond de son cerveau pour jouer sur les mots. Ah, vous avez touché le plafond tous les deux.
Bah
Oui,
là,
parce qu'ils ont
c'est peut-être
touché les pieds sur le fond. Enfin, comment
les
dire ça?
extrémités
Sur le
du
plafond.
plafond en fait. Et le plafond, c'est un peu comme
Le
le sol
plafond
d'une
devient le
certaine
sol.
manière. Voilà, ils jouent sur les mots, le plafond devient le sol le
Mais
plafond.
c'est grâce à cette scène en fait qu'on comprend, enfin je pense qu'on essaye de nous faire comprendre que le Daikaio n'est pas si fort en fait qu'on veut
Oui,
nous le
il
faire
esquive
croire
bien
depuis le
le.
début. Il le dit clairement, enfin il le pense clairement, que vu leur niveau, il aurait fallu qu'ils y reprennent son entraînement parce qu'il s'était un peu négligé et que ça aurait été trop épuisant. Donc je pense qu'il peut avoir le niveau, mais c'est juste que c'est un gros flemmard en fait. Et donc il remet un peu l'arlésienne de je te donnerai des cours si tu t'entraînes pendant 300 ans. lui laisse largement le temps. Mais ouais, c'était assez drôle comme finale.
Ouais, comme échappatoire, c'était sympa.
On et au niveau musique,
ouais.
Au niveau musique dans l'épisode, il y en a une qu'on avait jamais entendue, je crois, qui apparaît surtout dans l'arc suivant, quoi, l'arc avec Boo.
Ouais.
Celle, il y en a une, pour vous dire exactement à quel moment elle apparaît, mais c'est une musique typique de l'arc Boo, je trouve. Alors, je crois que c'est une des premières fois où elle apparaît dans la série.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est vraiment
elle apparaît quand
une
on l'entend quand cette musique?
Attends, je vais regarder.
Est-ce que ça serait pas à la fin quand on voit Gohan?
Non, c'est pendant le combat.
Pendant le combat?
C'est peut-être l'épisode d'avant.
En attendant, vu qu'on n'a pas évoqué le seiyuu de Paikuhan, vous savez de qui il incarne d'autre comme personnage?
Grand comédien. C'est pas la voix de numéro 16?
Exact. Hikaru Midorikawa. Et pour information, c'est la voix actuelle de Tenshin Han.
Hélas.
Hirotaka Suzuki va nous manquer.
Oui.
Il est pas mauvais, mais la voix est tellement différente. Enfin bon, voilà, je préfère naturellement l'ancienne. Après,
Suzuki était tellement fort que passer après lui, c'est difficile en fait. Mais Midorikawa fait un très bon travail.
Le travail est pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'il se passe quelque chose dans Dragon Ball Fighter quand tu avais fait affronter numéro 16 contre Tenshin Han. Numéro 16 dit « Je vais devoir m'affronter moi-même », quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont le même comédien.
Ah oui,
c'est vrai. J'ai pas fait
gaffe. Pour fan hardcore.
Donc pour la musique, c'est celle qui apparaît à peu près à 7 minutes 33, 34, je crois.
De quel épisode?
Du dernier, du 199.
Du 199.
Alors, c'est une musique qui apparaît dans le film Broly, on en revient toujours à lui.
C'est pas quand. C'est pas justement quand Broly se fait découvrir?
Ça y est.
C'est pas justement quand Paragus est en train de dévoiler son plan?
Non, je crois pas que ça soit à ce moment-là. Mais dans Broly, c'est sûr, elle apparaît.
Oui, parce que je me suis dit la même chose, j'ai pensé au film Broly tout de suite.
Et c'est une musique qu'on entend souvent dans la série.
En fait, de ce passage-là, sont issus effectivement du film Broly. Bojack était en train d'être diffusé au cinéma ou alors il allait être créé peu après. Donc aucune de ces musiques n'apparaît.
Et du coup, après, on l'entend, la musique, on l'entend aussi souvent dans la saga Boo.
D'accord.
À quelle minute tu as dit?
7 minutes 30. Attends, 7 minutes. 35, un truc comme ça. Ouais, 7 minutes 34.
Ah oui, c'est la fameuse. Oui, c'est la fameuse de Broly, ça. Ouais.
Et on l'entend beaucoup dans la saga Boo aussi.
Effectivement, ouais, c'est ça.
Oui.
Eh ben d'accord.
Donc ça, la boucle est bouclée.
Et ça, c'est quand Broly se transforme, il me semble. C'est dès qu'il brise son espèce de carapace, elle apparaît, enfin que son visage se déchire, j'ai l'impression que
il y a celle-ci.
Quand le
le déchire complètement. On en revient toujours à lui, du coup.
Ah ben voilà.
Broly.
On fait le lien avec le point news.
La boucle est bouclée.
Parfait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du tournoi, sauf si vous y avez encore des choses à dire.
Moi, j'avais rien à ajouter, du coup, mais...
Non, bah écoute, pour ma part, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, oui.
Je pense aussi.
Eh bah ok.
Donc c'est maintenant le moment des recommandations de nos invités. Qui a une recommandation particulière à faire aujourd'hui?
Soyez pas timide.
Non, bah moi, je peux parler. Ah bah vas-y.
Alors, en ce moment, je relis un manga que j'avais jamais terminé. Moi, j'étais assez petit, du coup, le dessin me rebutait un peu, honte à moi. Mais maintenant, bon, voilà, le temps a passé. Et du coup, je me relis Ashita no Joe.
Ah oui.
Ah ouais.
Voilà, beau choix, monsieur.
Un grand classique, du coup, et franchement, c'est une vraie claque. Et je me dis que quand on est gosse, on loupe vraiment des trucs juste parce qu'on est trop con, en fait. Voilà, faut le dire. Faut le dire. Et ouais, non, suivre les aventures de Joe, c'est assez poignant, en fait. Ce mec-là, il cache ses sentiments, c'est incroyable. Bon, enfin, je vais pas tout vous dire. C'est un classique, en fait. Il y a juste à lire et à apprécier. Et je pense qu'on peut pas ne pas aimer, mis à part le style de dessin qui peut en rebuter certains, mais même pas, quoi. Oui. Faut pas s'arrêter à ça, ce serait trop dommage, quoi. Ce serait comme tu t'arrêtes à l'attaque des titans au début, le style de dessin est pas ouf dans le manga.
Ah oui, c'est sûr.
Et en fait, c'est un manga qui il est dans les top 5 du Japon maintenant, tu sais. Non, voilà, c'est vraiment à faire, c'est un classique. On parle de Dragon Ball, c'est un classique. Bah, Ashita no Joe, c'est un classique. Voilà.
Et il y a combien de tomes?
Il y a Glénard sorti, a fait une réédition, il me semble.
Je crois qu'il en a 13.
Ouais, ouais, 13 tomes.
Ah ouais, donc c'est pas une série très très longue non plus. Donc, ouais,
non, mais c'est des gros tomes par contre.
Ouais, ouais.
Ça en vaut un peu plus de 20 normaux comme ça, il me semble.
Ouais, ouais, c'est pas l'édition normale du manga avec la.
Il y en a un peu plus d'une vingtaine, il me semble, en temps normal.
Il y a plusieurs mangas qui me bottent celui-ci en fait partie. Et il faudra que je trouve, voir s'il n'y a pas une bibliothèque qui les a pour les emprunter. Ça serait pas mal. Mm-hmm.
Ouais, ouais.
Si je peux me permettre, je vous recommande également l'adaptation animée de Ashita no Joe, réalisée par Dezaki, le réalisateur de Cobra, Lady Oscar, Rémi sans famille, Takarajima.
D'accord.
L'adaptation est excellente et n'a pas pris une ride.
D'accord.
Mm-hmm. Laquelle, tu veux dire, parce qu'il y a deux saisons, il me semble, non?
Ashita no Joe 2.
Ouais, 2, d'accord.
La deuxième.
D'accord.
La première va jusqu'à l'affrontement avec Rikichi, et la deuxième série, bah, ça se termine là, ça commence là, justement.
Ouais, d'accord. Mm. Ok.
Donc, oui, très 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 bon manga.
Quelqu'un d'autre?
Allez, Gotham. Ah bah.
Eh ben, moi, ça n'a rien à voir avec du manga, comme la dernière fois d'ailleurs. Là, ça sera pas du comics non plus, ça va être plus une série télévisée que je trouve géniale, qui a fini sa deuxième saison il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines. C'est Westworld, je sais pas si vous connaissez.
Oui, de nom, beaucoup.
Ah, je connais pas.
Et franchement, c'est une tuerie, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un peu spécial, faut adhérer un peu à la narration, mais du coup c'est une série qui est diffusée sur HBO, et donc ça raconte, en fait c'est issu d'un livre, enfin d'un livre je sais pas, mais il y a eu un film il y a des dizaines d'années qui a été fait, qui s'appelle en français Monde Ouest, et en fait bon, donc la série raconte l'histoire de, c'est dans un futur plus ou moins proche. Il y a un parc qui a été créé avec des robots vraiment humanoïdes. On peut pas savoir si c'est des humains ou des robots, tellement ils sont vraiment fidèles à des humains. Et du coup, dans ce parc-là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous y allez et vous pouvez soit être quelqu'un de gentil. Vous avez des quêtes. Les robots à l'intérieur vous proposent des quêtes. Soit vous pouvez être gentil, ou alors vous pouvez carrément faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez tuer, violer, faire ce que vous voulez, en fait. Et en fait, la série se repose sur les robots et qui commencent à développer une conscience. Et du coup, toute la série est basée sur ça, sur l'humanité, en fait. Qu'est-ce qui est humain, ce qui rend les gens humains, ce qui ne l'est pas. Et on voit que quelquefois, les robots peuvent être plus humains que les humains. Et c'est assez spécial comme série. Faut vraiment bien accrocher au début. J'ai pas tout de suite accroché, il m'a fallu au moins 2-3 épisodes avant vraiment d'accrocher, mais c'est réalisation au top, des acteurs vraiment magnifiques et des décors somptueux. Je recommande. Il y a 10 épisodes par saison. La saison 2 vient de terminer avec un gros cliffhanger énorme qui te retourne le cerveau. Vraiment, c'est vraiment, je recommande la série Westworld. Faut la voir. Voilà.
Wow.
Ah, d'accord.
Il y a deux acteurs connus. Il y a Anthony Hopkins.
Oh yes.
Qui joue un rôle très très important dans la première saison. Et Ed Harris aussi, qui a un gros rôle dans la saison.
Ça promet du lourd.
Non, vraiment, vraiment super. Les acteurs sont vraiment super. Il n'y a rien à dire sur les acteurs, c'est vraiment super bien. La réalisation aussi, le dialogue, vraiment tout. Je pense que je vais me refaire la série depuis le début, parce que en voyant la suite, on comprend des choses qu'on n'avait pas spécialement compris au début. Et je suis sûr que je vais revoir la série avec un point de vue différent, et je vais voir des choses que je n'avais pas captées au début, quoi.
C'est le genre de série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je suppose aussi.
Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé.
Je disais, c'est aussi le genre de série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je pense.
Ah.
Allô ?
J'entends plus. Allô, allô ?
Oh. Ouais, allô, tu nous entends ?
Ouais, là, je vous entends, ouais. Ça a coupé.
Je disais, c'est aussi le genre de série où tu comprends certains détails une fois que tu connais la suite, je suppose.
Voilà, tout à fait. Ouais, c'est vraiment une série typique
comme dans Lost.
Comme dans Lost, on y revient toujours, hein, Lost, voilà. Et du coup, vraiment. Non, vraiment, là, on comprend beaucoup d'autres choses. Bah, déjà, à la fin de la saison 1, on comprend beaucoup de choses par rapport à la saison. J'avais pas revu la saison, j'aurais dû avant de me lancer dans la saison 2 d'ailleurs, mais il y a en fait la fin de la saison 1 remet tout en question par rapport à toute la série, et la saison 2 aussi, faut dire. Donc non, vraiment, je veux pas trop en dire, faut pas spoiler non plus, mais courez la voir, vraiment, c'est super.
D'accord.
Eh bah ok.
Voilà, je crois qu'on est bon.
Ok, bah moi ma petite recommandation, ça serait la réédition du comics Man of Steel. Donc Man of Steel, c'est le comics qui redéfinit donc les origines de Superman après Infinite Crisis. Et Crisis on Infinite Earth, pardon, la première crise tout simplement. Donc là, ils ont réécrit toutes les origines de Superman. Et donc, c'est les origines depuis jusqu'à aujourd'hui, puisque dans New 52, il est réapparu, ce Superman-là. Et c'est super bien. Bah, c'est Superman, forcément. Donc, c'est les nouvelles origines. C'est avec l'ex-Luthor de Terre 1, c'est ça. Et non, c'est fascinant. C'est pas du tout niais. C'est contrairement à ce qu'on peut penser, avec Superman, c'est pas niais, c'est bien construit, c'est un peu une sorte d'âge d'or pour ce personnage-là, et je me suis régalé de cette édition. Voilà.
Non, à voir, ouais. Superman, en général, les comics Superman, j'ai un peu de mal souvent, c'est pas ennuyeux, mais presque, quoi. J'ai souvent un sentiment d'ennui quand je lis, et il y en a très peu que j'ai vraiment apprécié, Superman.
Mais même Red Son.
Red Son, je l'ai pas lu ça.
Il est très très bon, Red Son.
Ouais, ouais. C'est un de ceux que je dois lire d'ailleurs. Mais du coup, il y en a très peu que j'ai bien aimé dans Superman. Mais en Origin Story, en général, ça marche bien.
Bah moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, avec l'actualité, ce qui se passe dans le monde, je trouve que c'est tellement sombre que. Personnellement, je m'identifie de moins en moins à Batman. J'aime bien Batman, j'adore le bestiaire des ennemis et tout. Mais là, en ce moment, j'ai envie de redécouvrir un petit peu l'homme d'acier. Parce que finalement, j'en sais pas des masses sur lui.
Bah ouais.
Ouais.
À voir.
Et vous, Cusa ?
Non, moi j'avais rien. Tu peux couper, moi j'avais rien à vous recommander. Tout. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce 12e podcast sur Dragon Ball, centré cette fois sur l'arc de l'autre monde, mini-arc, mais très intéressant et très, très drôle en soi. Nous espérons que ça vous aura plu autant qu'à nous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.
Salut.
Ciao, ciao.
Salut, ciao, ciao, merci à tous.